Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Sylvie Matera.
Bonjour.
Économiste, senior advisor du cabinet de conseil d'audit Mazars. Guillaume Dard, bonjour.
Bonjour.
Président de Montpensier Finance, société de gestion, de conseil en investissement et vice-président de l'AFG, Association française de la gestion financière. Bonjour Frédéric Farah.
Bonjour.
Bienvenue, économiste, enseignant-chercheur affilié au laboratoire phare de l'Université Paris-Sorbonne. Philosophie, histoire et analyse des représentations économiques. On va aller vite là-dessus. Fin de la ristourne pour tous. Pour les carburants au mois de décembre, et à compter du mois de janvier, 10 millions de travailleurs modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler pourront prétendre à une aide versée en une fois de 100 euros. Un couple éligible avec deux voitures pourra prétendre à 200 euros. Il faudra se rendre sur le site du gouvernement, le site de Bercy que vous connaissez tous, renseigner son numéro fiscal, renseigner sa plaque d'immatriculation et indiquer sur l'honneur que l'on a bien besoin de sa voiture pour aller travailler, et à ce moment-là, les 100 euros seront crédités sur le compte en banque des bénéficiaires. Il n'est plus question des gros rouleurs. Il ne faudra pas justifier d'un nombre de kilomètres parcourus. Petite réaction, Guillaume Dard. Ça y est, l'aide est ciblée. 1 milliard en 2023. Aujourd'hui, la ristourne, c'est presque 1 milliard par mois.
Hein. Oui. Ce débat a lieu depuis plusieurs mois. On demandait à ce qu'effectivement, il n'y ait pas un bouclier tarifaire pour tout le monde. One size fits all. On demandait à ce qu'il y ait un ciblage. Donc ça, c'est un ciblage. Alors, immédiatement, j'imagine que dès qu'on aura analysé davantage ce ciblage, on lui trouvera plein de défauts, des effets de bord, des effets d'éviction de seuil, des contraintes, je ne sais pas ce qui se passe quand covoiture. On est en France, donc vous pouvez imaginer le nombre de critiques qu'on va trouver dans les 24 heures à venir. Dans l'idée générale, c'est une bonne chose, c'est ciblé. Et deuxièmement, en janvier, on a traditionnellement une série de hausses des taux, notamment dans le transport, etc. Et donc, c'est un petit baume adoucissant pour une partie de la population. On comprend bien les contraintes du gouvernement face au mécontentement latent. On va évoquer d'autres sujets de mécontentement. Il y a autant de sujets de mécontentement que de sujets. C'était qui ?
Que deux minutes dans l'émission.
Non, mais en France, il y a autant de... C'était Cire, c'est Turgot, non ?
Allez-y, je ne vois plus, mais...
Voilà, bon. Je pense qu'en France, il y a autant de sujets de mécontentement que de sujets.
D'accord.
Nombre de Français, si vous voulez.
Oui.
Donc, ça en fera un, mais c'est une bonne chose. Et si on a le coup de chance que la baisse du cours du pétrole se poursuive et que la hausse de l'euro se poursuive,
ah oui,
vous avez remarqué quand même que on était à 95 contre le dollar et qu'on est à 1,05, ça fait 10%. Le pétrole est, toute chose égale par ailleurs, 10% moins cher aujourd'hui qu'il y a un mois.
L'effet euro est colossal.
Et, et comme le pétrole lui-même, il a reperdu 15 à 20%, on a donc une baisse par rapport au pic qu'on a connu cet automne de 25% potentiellement. Alors, le cours du pétrole, ça varie tous les jours, donc on ne va pas faire de pronostics.
Oui, mais quand même, on est passé sous les 80 dollars.
On peut avoir un double effet. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'on avait dit qu'on allait enlever la réduction à la pompe, ça allait y avoir des hurlements. On n'a pas spécialement...
Ah ben, super agenda pour Bercy.
Super agenda.
Ah ben, ils ont eu beaucoup de chance.
Et il vaut better lucky than smart. Il vaut mieux être chanceux qu'intelligent, mais ils ont été intelligents.
Il faut reconnaître que mi-novembre, quand on passe la ristourne de 30 centimes à 10 centimes, c'est le moment où l'euro repart à la hausse face au dollar, c'est le moment où le pétrole se met à baisser. Deux effets qui ont bien atténué le côté douloureux de cette ristourne. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non. Bon, j'avance. Attendez, j'ai reçu une réaction que je trouve assez drôle. François qui me dit RTE, réseau de terreur électrique. C'est bon, c'est assez bon. Il faut reconnaître que c'est assez bon. Alors justement, Emmanuel Macron considère que Enedis, en fait, entretient la peur, jette de l'huile sur le feu. Le boulot d'Enedis, c'est de fournir de l'électricité, de l'énergie. C'est d'anticiper, bien sûr. Mais là, sur un plateau de télé à grande écoute, annoncer que tout peut arriver et c'était presque Armageddon, ça a considérablement provoqué le courroux du président de la République qui considère que voilà, chacun son boulot. Et lui, il dit mon boulot, moi, c'est d'anticiper. À côté de ça, Covid nous a montré que quelquefois, il y avait un petit problème de cécité, voire de déni au plus haut niveau de l'action gouvernementale. Une réaction par rapport à ça, Sylvie Matera. On se demande qui a raison. Bon, moi, j'avais un avis que j'ai explosé avec j'allais dire explosé. Oui. Exposé à leur closier à 7h10, on n'était pas du même avis, mais je vous écoute.
Non, bah, je trouve que le président a raison. Bah, c'est quand même... Non, c'était un peu étonnante, je veux dire que la remarque était un peu déplacée, on peut le dire. Et puis en plus, on ne sait pas ce qui va arriver, ça va dépendre aussi de la météo, oui. Donc c'est très difficile de dire ce genre de choses, et effectivement... Tout ce qui est excessif, c'est quand même pas tellement utile dans le débat actuel, je trouve.
Je suis bel de votre avis. Alors, je rappelle, hein, le responsable d'Enedis dit sur BFM TV, voilà, il y aura des délestages, y compris une personne qui est sous respiration artificielle à la maison pourra risquer un délestage. Ah, oui, vous imaginez l'effet de ce genre d'annonce.
Enfin, c'est pas très raisonnable de dire ça à la télé, quand même.
Voilà.
Le président...
Et Frédéric,
oui,
après, quand même.
Bien sûr, Frédéric.
Mais... Frédéric Farah, si vous...
Je dirais deux choses. En fait, je crois que le gouvernement, et je comprends l'agacement, parce qu'effectivement, il y a, à mon avis, la jurisprudence Covid derrière. C'est-à-dire
Oui, absolument.
Covid derrière. Parce que, souvenez-vous, et je pense que ça doit susciter chez le président de la République une angoisse, souvenez-vous quand le président de la République avait dit « mais il faut aller au théâtre, il faut faire comme si de rien n'était, etc. » et tout, et puis tout d'un coup, est arrivé, je me souviens plus la phrase où il sortait, où il fallait dire « bon, il fallait continuer à vivre normalement », et puis après, très vite, on s'est emballé, on a dit « il fallait confiner, ça n'allait plus », etc. Et donc, je pense que c'est dans les têtes, et qu'on a peur d'être pris en défaut, et qu'on sait très bien que dans ce type de situation, la communication compte autant que le délestage.
Oui, c'est vrai. Oui. Non, mais d'ailleurs, dans tous les phénomènes autoréalisateurs, les mots comptent.
Les mots comptent énormément.
Regardez, on parle des banques centrales, elles espèrent bien que les mots vont compter plus que les actes. Hein. Non, mais terminé, Frédéric.
Juste un petit mot. Et puis après, aujourd'hui, je pense que de manière générale, on observe, et ça pas récemment, à côté des politiques, comme on a accordé de plus en plus de place dans la décision politique, dans les orientations, on va dire à des organes techniques. Donc il n'est pas étonnant que d'ici de là, ceux qui sont des acteurs, c'est la logique de la gouvernance, hein, interviennent dans tout ce qui est électricité et fourniture, sont obligés pas simplement de faire leur métier, mais aussi de parler. Hein, c'est-à-dire et de dire des choses. Alors pour le meilleur et parfois pour le pire, parce que parfois les gens qui vont dire des trucs vont dire l'histoire du respirateur et tout. Ou c'est alors que effectivement nous vivons dans une société, et ça je crois que c'est le gros problème depuis des années, où on arrête de penser la société comme des projets, on pense de plus en plus la société comme une somme de risques.
C'est très vrai.
Mais sachant que les délestages qui durent 2 heures maximum sont anticipés, programmés, planifiés, territorialisés. Bon, mais c'est très très vrai.
Et ce serait mieux de penser à la société plus en termes de projet que de risques qui risquent de nous casser la tête toutes ces
semaines. Et si on peut exprimer un souhait, est-ce qu'on pourrait éviter de se réveiller tous les matins? Pendant 2 ans, on a eu tous les matins des médecins qui nous expliquaient à quel point la situation est dramatique. Si on pouvait éviter de se réveiller tous les matins avec des gens qui viennent nous expliquer qu'on ne va pas avoir d'eau chaude, qu'on ne va pas avoir d'électricité, ça serait quand même pas trop.
Je suis d'accord, on a l'impression que c'est l'apocalypse à peu près tous les
matins. Mais c'est ça.
Ouais. Voilà, alors le président. Le président, il est dans son rôle. Hein, on est un pays où on écoute la parole présidentielle, quelle qu'elle soit. Il est là pour être le chef, et s'il n'était pas intervenu, on aurait dit des taux d'abonnés absents, encore une fois, dans une crise. Non, et il a été assez ferme. C'est son rôle, pour les raisons que Frédéric vient de développer, c'est-à-dire que l'ensemble de ces agences, de ces institutions qui se sentent ou sont obligées de communiquer et d'être prudentes parce qu'elles ont peur que d'être ensuite saisies par les juges. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, là, il y a l'agence du médicament là qui est accusée de quelque chose. C'est-à-dire que
pas relevé.
Si ces agences sont sous contrainte judiciaire permanente, donc du coup, elles font leur job, elles se couvrent dans le principe de précaution. Donc le chef Emmanuel Macron, il dit attendez. La France, c'est quand même pas la fin du monde. Parce que tout ça, c'est dans une séquence. On a le problème de l'éducation qui part dans un certain nombre de cas à volo. On a le système de santé dont on nous explique qu'il n'est pas capable de tenir dès qu'il y a eu quelque chose d'un peu plus grave. Et si en plus l'énergie ne marche pas, sans parler de la dégradation de la note française dans le S&P, si vous voulez, quand même, pour le président de la République, ça montre qu'il est à la tête d'un pays faible. Donc, qu'il essaye d'être un peu énergique. Et c'est son rôle, parce que le patron, quel qu'il soit, dans n'importe quelle communauté humaine, c'est dire « Allez les gars, on fait un effort et on y arrive hein. ». Je sais pas ce que dit le capitaine de l'équipe de France de football, mais s'il dit pas « Oh là là, ils sont très forts, ils vont nous mettre des buts », non, il dit « On va gagner ». Donc, il est dans son rôle de leader. Ceci étant dit, il y a toujours une limite au rôle de leader. Il y a 100 ans, pendant la guerre de 14, le président Poincaré fait le tour va près des tranchées, notamment à Toul, et puis au loin on entend énormément de bombardements sur Nancy, et alors il dit aux généraux, mais je ne comprends pas, j'avais demandé qu'il n'y ait pas de bombardement. Enfin bon, c'est les Allemands qui bombardaient. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, Emmanuel Macron est dans son rôle, il prend un risque. Effectivement, il prend un risque, mais je trouve que c'est plutôt une attitude courageuse.
Sylvie Matera, pour terminer sur ce sujet, parce
que... Non, mais moi, j'avoue, j'admire le talent de Guillaume pour mettre tout en perspective. En fait, c'est une phrase complètement inappropriée, et puis il a juste dit, c'est une bêtise, moi, ça me semble très bien.
Ah,
comme
pour
ça.
L'Enedis. Oui, en fait, ouais. Il était plus loin, hein. Le ton était plus
chi.
Je ne sais pas si la colère était feinte, mais il était dans son rôle de leader. On attend quand même une parole de leader.
Ça. Mais c'est vrai que, comme le dit Frédéric, fondamentalement, sur plein de sujets, on avance et on gouverne par la peur, par l'inquiétude. Et alors la communication à outrance, il suffit que les chaînes d'infos pendant 48 heures disent qu'on va manquer de PQ, et on manque de PQ. Vous avez vu, excusez-moi, ce qui s'est passé au début de Covid, c'était lunaire. Il n'y avait plus le papier toilette dans les rayons. Pas bon. Écoutez, voilà. Faites vos jeux. Le 15 décembre, alors nous on sait que la BCE va monter ses taux. La Fed, elle va faire un petit peu, pas forcément une pause, mais modérer les hausses. Allez, 50 ou 75 points de base, Frédéric.
Ouf. Je vais la faire à la Philippe Lane dans son interview qu'on retrouve,
très, très bien.
Qui était excellente sur le site de la BCE.
Qui était très très bien.
Alors donc, Philippe Lane, c'est l'économiste de la BCE.
Voilà, alors Philippe Lane, quand on lui dit alors 50 ou 75, il dit que bon, il faudra voir la situation, il avance à pas très très prudent. Alors moi, je dirais plutôt 75, mais je vais faire comme Philippe Lane, on verra bien, je veux dire, parce que effectivement, il explique par rapport aux données qu'il va avoir, la progression de l'inflation. Il faut voir cette interview, c'est un monument de prudence. Hein. Je ne sais pas ce qu'on a pensé, mais vraiment, il y va, il a tellement peur qu'on les prenne en défaut.
Je me mets un peu à sa place, Frédéric, en ce moment.
Hein. Oui.
Donc, honnêtement, s'il y a un mot de trop, même si vous n'êtes pas le président, mais que l'économiste en chef.
Oui.
Donc 75 points de base, selon vous.
J'ai dit 75.
Oui, 75. Ouais, Sylvie.
Pour le débat, je vais dire 50.
Oui.
Mais je pense qu'ils sont. Je pense que les membres du Conseil des gouverneurs sont bien embêtés. Et que ça va être une réunion importante et je pense une décision très discutée. Et parce que la Fed a dit qu'elle allait. En fait, je pense que la Fed. D'ailleurs, ça fait plusieurs mois que je le dis à ce micro.
Relevez-le un peu le micro là. Il est voilà.
Qu'elle passera de 75 à 50. Qu'elle va augmenter de 50. Jérôme Powell l'a quasiment dit. Mais elle va donc c'est diminuer le rythme de hausse, mais continuer à augmenter. La BCE, elle, dans une situation. Alors, elle se dit si je fais 50, on va dire que je fais comme la Fed, alors que j'ai été un peu à la remorque finalement de la Fed, puisque la BCE a réagi tardivement. Si elle fait 75, il y a quand même des pays en Europe où l'inflation est très élevée et ça risque de provoquer des récessions, des signes de récession plus forts. Donc moi je pense que c'est pas seulement le niveau de la hausse qu'il faudra regarder, mais aussi le discours. Donc à mon avis, ils vont s'accorder soit le trade-off va être entre soit 50 et un discours très dur en disant on met 50 mais on a bien conscience que on n'a pas encore atteint le pic d'inflation mais qu'on s'en rapproche et on veut accompagner le mouvement sans casser.
Pic, hein. Elle ne parle pas du pic là, elle dit ça continue.
Oui, non, mais c'est important de savoir quand sera le pic d'inflation parce qu'après on peut commencer à ralentir la hausse. Ça ne veut pas dire baisser, c'est ralentir le rythme de hausse. Donc soit elle fait 50 avec un discours très très ferme, très très ferme, en disant nous tiendrons dans notre combat contre l'inflation, on va continuer pendant une période jusqu'à ce qu'on arrive à des zones qui correspondent à nos mesures, qu'elles continuent à augmenter, même si le rythme est différent. Soit elles passent à 75, mais avec un discours
plus qui soft.
Sera, à mon avis, très soft.
D'accord. Ouais.
Bon, je pense qu'il faut combiner les deux.
Guillaume Dard, votre
premièrement, et la BCE est en retard.
C'est ce que me dit John à l'instant.
La BCE est en retard depuis le début. Elle est d'ailleurs en retard à peu près depuis 14 ans, à chaque crise, c'est-à-dire qu'elle est décalée.
La situation économique de l'Europe est aussi décalée.
Pourquoi est-ce qu'elle est en retard ? Peut-être à cause d'elle-même. Et deuxièmement, parce qu'il est beaucoup plus difficile de gérer la Banque Centrale Européenne que la Fed. La Fed, même s'il y a des États en théorie, c'est quand même un pays, les États-Unis, alors que la BCE, elle travaille pour un ensemble de nations qui ont des situations différentes. Donc c'est toujours beaucoup plus difficile.
On est d'accord.
Troisièmement, l'inflation peut-être se réduit légèrement. Mon collègue Wilfried Galland dit que lui, en Europe, il pense qu'on a le pic inflation, il est passé.
Donc,
personne
un peu plus
ne
de 10,
sait.
Ce serait le pic.
Quatrièmement, Christine Lagarde, elle a fait un peu comme Philippe Lane, hein, à sa dernière conférence, elle a fini en disant « Je suis normande, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. »
C'est Philippe Lane.
Voilà, voilà. Donc c'est une Normande, un Irlandais, donc il y a de l'hésitation. Le consensus, il est quand même, vous savez, les marchés mesurent par la courbe des taux d'intérêt à court terme quelle va être la hausse des taux. Elle est à 54-55, ce qui fait que, effectivement, entre ce que vous venez de dire, il y a un petit doute, c'est-à-dire que ça n'est pas sûr. Mais ça, c'est le calcul, mais le sentiment du marché, c'est 50. C'est-à-dire que si c'est 75, ça va être quand même un coup de tonnerre, parce que quand on fixe les taux d'intérêt, il y a une étude de la Fed de New York, et je finis par là, qui est très intéressante, qui dit il y a le taux R-Star, qui est le taux auquel il faut porter justement ces taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, et il y a le taux R-Double Star, qui est le taux si on l'atteint, le système financier entre en turbulence. Alors, on n'y est pas, que ça soit 0 ou 50 ou 75. Ce qu'on sait, c'est que par exemple aux États-Unis, c'est pour ça qu'on dit que ça ira pas au-dessus de 5, c'est qu'au-dessus de 5, on ne sait pas ce qui se passe pour le système financier dans ce monde incroyablement endetté dans lequel on vit.
Et j'ai cru comprendre qu'en Europe, on était entre 3 et 3,5, ce moment.
Non,
3 un
et 3,5, c'est le... Oui, probablement, bon. Mais enfin, si c'est 3, 3,5, on voit la fragilité du système financier européen.
La BCE est en retard, vous êtes d'accord avec l'initiative?
Oui, elle a réagi.
Tout le monde est d'accord avec ça.
Oui, elle a réagi beaucoup plus tardivement, mais je suis tout à fait d'accord avec Guillaume, sa situation est beaucoup plus complexe. Hein. 19 pays, des économies différentes, des rythmes d'inflation différentes, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que je pense que cette réunion, la semaine prochaine, va être vraiment, vraiment intéressante. Il faudra regarder les minutes quand ils les publieront. Mais...
Je fais confiance à Frédéric pour regarder les minutes.
Non, je pense que le taux, ça ne sera pas seulement la chose à regarder. Il faudra regarder le discours.
Oui, et sur le bilan, il peut se passer quelque chose. Ça aussi, c'est un
moment
clé.
Mais ça a commencé, le bilan?
Ça a commencé.
De combien ça a commencé?
Pour l'instant, attendez, le bilan, les obligations sont actuellement renouvelées. Non. Enfin,
le bilan à l'actif de la Banque Centrale, il y a deux choses. Il y a effectivement les obligations d'État achetées et il y a les refinancements des banques.
Oui.
Ça s'appelle le TLTRO. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 jours? Les banques ont remboursé 300 milliards.
Ah, mais sur le TLTRO, oui.
Non, mais c'est le bilan.
Oui.
Donc, c'est du QT, c'est la liquidité injectée dans le système global, que ce soit les États ou le système bancaire.
Mais ils avaient annoncé qu'ils allaient revenir sur
le... Oui, mais le QT a commencé. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis, 15 ans que le bilan de la Banque Centrale Européenne baisse significativement. C'est 300 milliards... C'est le bilan, il doit être à 7 000. Qu'est-ce que Frédéric, vous diriez 7 000, 8 000?
Oui, 7 000, 8 000.
Bon, 300 milliards, c'est quand même de l'argent. Bon.
Hein, oui.